Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chimères, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon être est brisé.
Merci beaucoup, Dan. Merci, les musiciens. Merci d'avoir choisi d'être à l'église ce soir. Combien croient qu'ils ont fait le bon choix? Merci Seigneur pour la belle température. Hein? J'ai pris une marche avec mon épouse et mon chien cet après-midi. Et combien ressent le printemps dans l'air? Hein? Il faisait beau aujourd'hui. Ce serait pas long avant que mon épouse commence à nettoyer mes bâtons de golf. Tous les hommes disent Amen. On essaie de montrer l'exemple ici. Merci Seigneur pour les hôtels, pour l'hôtel qui était rempli de personnes ce matin, pour qui ont répondu à l'appel pour la nouvelle naissance, pour connaître Jésus comme leur sauveur personnel, 20, 30 peut-être plus, de personnes qui connaissent Jésus maintenant comme leur sauveur personnel, qui ont connu la nouvelle naissance. Ça, c'est bénissant. Vous savez que la Bible nous enseigne quand une personne viennent à la repentance ou reviennent à Dieu, il y a un party au ciel. Une personne, ça dit que les anges, c'est ce que la Bible nous enseigne, ça dit que les anges se réjouissent, ça veut dire qu'il y a un party au ciel depuis ce matin. Hein? Un party pour tous et chacune de ces personnes-là qu'aujourd'hui, ils connaissent Jésus comme leur sauveur personnel. Hein? Ça mérite une bonne main d'applaudissement au Seigneur. Merci Jésus pour les âmes sauvées. Merci pour la conversion. Merci Seigneur pour tous et chacun de ces personnes. Alléluia. Faut pas prendre pour acquis. Faut pas prendre pour acquis chaque fois que quelqu'un est né de nouveau, chaque fois que le salut qui visite quelqu'un, qui visite un foyer, c'est vraiment un miracle, c'est formidable, c'est la grâce extravagante de Dieu. Amen. Alors moi, je crois que ça mérite une ovation debout. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Dis merci Seigneur pour cela. On te rend grâce pour ces hommes. Merci pour tous et chacun de eux. Tu connais leur nom, Seigneur, leur adresse. Tu sais d'où ce qui vient. Ils sont chers, Seigneur, ils ont une grande valeur devant toi. On prie pour eux qu'ils soient intégrés dans la famille de Dieu, dans le corps de Christ. Merci. Merci pour la grâce de Dieu. Merci pour le salut des âmes. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Faites-vous asseoir. Ce soir, une soirée de l'Esprit. Est-ce que je vais terminer? La série de trois messages au sujet de la parole et la Bible, et qui est important, hein, qu'on parle de la Bible, la parole, l'emphase de l'Église cette année, la prière et la parole. Et c'est important qu'on s'attache à la parole, qu'on comprend la parole, on étudie la parole, surtout dans une société ou une génération comme aujourd'hui, qui est une société avec une variété d'opinions sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, on a tout le spectre d'opinion et perspective sur la parole de Dieu, de l'hostilité à l'indifférence, à la négligence de la parole de Dieu, à l'ignorance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, surtout, on vit dans une génération d'illitrés bibliques. Une ignorance des choses de base même de la parole de Dieu. On ne peut plus prendre pour acquis que nos voisins, les gens de la communauté, connaissent la parole de Dieu. Même les choses simples de l'Évangile et la parole de Dieu. Vous avez entendu l'histoire d'un pasteur, c'est une vraie histoire d'un pasteur qui était à un match de basketball. Dernièrement, puis il y avait quelqu'un dans le stade qui avait le grand parcat Jean 3:16. Hein? Vous savez, des fois, pour les sports, il y a toujours quelqu'un qui veut témoigner avec Jean 3:16, hein? Le grand verset de l'Évangile de Jean sur la nouvelle naissance. Puis le pasteur a entendu des gens qui parlaient, puis il disait, qu'est-ce qu'il veut dire ça, Jean 3,16? C'est quoi cette affaire-là, Jean 3,16? Il ne savait même pas ce que ça voulait dire, le verset clé de la parole de Dieu sur la nouvelle naissance. Puis un qui dit, mais j'imagine qu'il cherche son ami Jean. Puis là, il veut dire, Jean, je suis dans la section 3, rangée 16. Parce qu'il était ignorant des choses de base de la parole de Dieu, même ce verset renommé de la parole. Mais pour nous, notre opinion sur la parole, c'est que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de la vie. C'est la parole pour nous. Et notre désir, nous croyons que c'est la lettre que Dieu adresse à l'humanité. Et ça vaut la peine d'être lu. Ça vaut la peine de porter attention à la parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Hein? Et notre désir, c'est de plonger dedans. De plonger dans la parole de Dieu, afin de découvrir les merveilles et les richesses dans la parole. Quand on gratte ou on racle la surface de la terre ou d'un champ, c'est facile. Mais quand on va juste racler la surface, ça ne nous donne rien que des feuilles mortes ou la poussière. Mais quand on va creuser dans la terre avec une pelle, ça demande plus d'efforts. Mais c'est quand on va creuser dans la terre, c'est là qu'on trouve les diamants, c'est là qu'on trouve de l'eau, c'est là qu'on trouve de l'huile, c'est là qu'on trouve de l'eau, c'est là de l'or, c'est là qu'on trouve les trésors cachés. C'est pas surface, il faut creuser avec la pelle, il faut rentrer dedans. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Il y a des choses aux surfaces, mais il faut l'effort de creuser, d'aller plus aux profondeurs de la parole de Dieu pour trouver les richesses qui sont à l'intérieur d'elle. Il y a un écrivain dernièrement qui a comparé la vie chrétienne à une pompe à l'eau. Puis dit, parfois dans la vie chrétienne, on se ressent comme une pompe à l'eau, qui donne et qui donne et qui donne. Puis on a beaucoup de demandes sur nos vies. Et la vie est exigeante parfois, puis la vie peut être épuisante parfois. Et il y a beaucoup de gens qui tirent et retirent des choses de nous dans une journée ou dans une semaine, surtout si on est parent. Comme parent avec les enfants, comme maman, comme papa, comme patron, comme employeur, comme ami. Quand on est impliqué dans le ministère, on se ressent comme une pompe à l'eau qui donne et qui donne. Et les gens viennent pour recevoir quelque chose. Mais à longue, qu'est-ce qui se passe? C'est que la pompe à l'eau, une fois qu'on a donné et donné, il ne reste plus d'eau à donner. Est-ce que vous ressentez comme ça des fois? Hein? On donne, puis à un moment donné, c'est comme si on n'a plus d'eau à donner. On est épuisé, on n'a rien d'autre qu'on peut donner dans une journée ou une semaine. Et quand il n'y a plus d'eau dans la pompe à l'eau, il reste seulement deux options. Soit qu'on ferme la pompe, on quitte, on dit plus d'eau, on ferme la pompe, ou on creuse plus profonde encore pour aller chercher de l'eau qui est là. On va aller creuser parce qu'on sait qu'il y a de l'eau encore plus profonde. On va aller chercher jusqu'à temps qu'on frappe l'eau, puis encore de l'eau qui est là pour donner aux gens. Et ce qu'on vous encourage de faire avec ces messages sur la parole de Dieu, c'est d'aller plus loin, de creuser plus profonde pour aller chercher de l'eau. Aller chercher de quoi dans la parole de Dieu afin que vous soyez à la mesure de donner. Donner à cette génération. Donner à vos voisins. Donner au travail. Donner l'Évangile. Des fois, si on est fatigué, on est épuisé, on est vide, il faut aller creuser dans la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit et on est certain que Dieu va nous donner de l'eau en masse pour continuer à donner. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Hein? Creuse, allez chercher de l'eau, allez chercher ce que vous avez besoin. C'est ce qu'on vous encourage de faire avec l'aide de l'Esprit. Découvre Dieu d'une façon fraîche, rafraîchissante, enrichissante dans la parole de Dieu. Avec l'aide de l'Esprit, qui est le but de ce soir. C'est pour ça qu'on veut prendre le temps dans quelques instants pour se baigner dans l'Esprit, pour être rafraîchi, renouvelé dans l'Esprit, parce que nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à découvrir ces choses dans la parole de Dieu. Il y en a qui vont dire, « Pasteur Marc, tu prêches sur la parole dans une soirée de l'Esprit. » Oui, parce que la parole et l'Esprit, ça va ensemble. C'est ce que j'appelle un mélange explosif. Quand nous avons la parole et le Saint-Esprit, ça peut être explosif. C'est avec l'aide de l'Esprit qu'on découvre les choses à l'intérieur de la parole de Dieu. C'est avec l'aide de l'Esprit qu'on développe une habilité de discernement, comme qu'on a entendu ce matin. L'importance de développer un discernement par la parole de Dieu. C'est avec l'aide de l'Esprit qu'on développe les habilités de discernement. Le Saint-Esprit se sert de la parole de Dieu pour nous aider à devenir ce qu'on devrait être par la grâce de Dieu. C'est toute la parole avec l'aide du Saint-Esprit. Je crois que c'est très clair en 1 Corinthiens, si vous aviez votre Bible, 1 Corinthiens chapitre 2. Sinon, ça va être sur l'écran. Mais je crois que l'apôtre Paul le dit clairement comment le Saint-Esprit nous aide avec la parole à découvrir, discerner et devenir. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous a révélé comment? Par l'Esprit. Car l'Esprit sont tout. Même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Afin de quoi? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et ça, ça mérite un amen. C'est clair. Combien aiment Dieu ici? L'apôtre Paul nous dit, pour ceux qui aiment Dieu, il y a des choses au-delà de ce que nous pouvons croire ou penser ou imaginer, des choses mystérieuses et cachées, des choses profondes, des choses que Dieu nous a réservées pour nous. Comme on a entendu ce matin, c'est des projets, des dessins, des plans, la création, des choses que Dieu a préparées pour nous. Ils sont découverts par le Saint-Esprit. Par l'Esprit, on découvre, on discerne et ultimement, on devient. Et la dernière chose qui arrive chez nous quand on s'attache à la parole de Dieu, une fois qu'on a découvert, on a développé le discernement, on devient. Romains chapitre 12, verset 2, notre verset clé pour ce message. L'apôtre Paul il dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, deviens, change. » par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Transformation. Il dit, soyez transformés. Le mot en grec pour transformer, c'est métamorphou, d'où vient le mot métamorphose. L'apôtre Paul est en train de nous dire, soyez métamorphosés. Complètement transformé. Vivez une métamorphose dans votre vie, dans votre perspective, par le renouvellement de votre intelligence, renouvelée par les Écritures avec l'aide de l'Esprit. La découverte nous donne le discernement. Le discernement nous aide à devenir. Combien sont prêts à devenir? Comment on peut dire amen? Vous savez même pas. À devenir quoi? Vous êtes une bonne congrégation. Hein? Combien sont prêts à devenir? Moi. N'importe quoi. Prêts à devenir. L'apôtre Paul dit qu'on devient, on est transformé, mais devenir quoi? Qu'est-ce que Dieu veut ou désire que je devienne par la parole de Dieu et le Saint-Esprit? Deviens quoi? Que voulons-nous devenir? Que devons-nous devenir? Devenir un croyant? Non. La Bible ne nous appelle jamais à être croyant. À devenir plutôt un disciple. Devenir un disciple. Le Saint-Esprit se sert de la parole afin que nous devenions des disciples. De devenir un disciple est le but ultime de Dieu pour votre vie. Disciple. Disciple, on a parlé de la casse-tête ce matin et on a parlé de la boîte. La boîte avec l'image de la casse-tête et ça, c'est notre objectif, ça, c'est notre but. On veut devenir comme ça. Être disciple, c'est la photo, c'est l'image complète, c'est le but ultime. Le plan et le dessein et les projets de Dieu pour votre vie n'est pas seulement que vous soyez un croyant. Ce n'est pas seulement que vous allez au ciel. C'est que vous pouvez devenir un disciple. Devenir un disciple. Matthieu 28, 19. Jésus nous donne la mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, non des croyants. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, non des croyants. La Bible ne nous appelle pas être croyants, il nous appelle être disciples. Savez-vous que dans le Nouveau Testament, le mot croyant est servi 3 fois. Le mot disciple est servi 269 fois. Combien c'est que c'est clair que Dieu désire qu'on devienne des disciples? Croyant, c'est facile. N'importe qui peut croire. Moi, je suis pas mal certain que 100% des gens dans cette salle ce soir croient en Dieu. Combien croient en Dieu ici? Moi, je dirais que presque tout le monde à l'extérieur de l'Église ce soir croit en Dieu. C'est rare de trouver quelqu'un qui ne croit pas en Dieu aujourd'hui. Tout le monde croit en Dieu. C'est facile de croire en Dieu. Même les démons croient en Dieu, nous dit la Bible. Mais où sont les disciples? Dieu cherche des disciples. Combien désirent devenir des disciples ici ce soir? Est-ce que je peux voir vos deux mains? Je désire devenir un disciple. Puis comment pouvons-nous savoir si nous sommes disciples? Est-ce que c'est un sentiment? Est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est parce que j'ai une carte de membre de l'Église Nouvelle Vie, je suis maintenant disciple? Est-ce que c'est par rapport à l'opinion des autres? Comment qu'on peut savoir que je suis disciple? Disciple égale quoi? Pour être disciple, ça prend la discipline. Disciple, discipline. Le mot racine de discipline, c'est disciple. Pour avoir la discipline, ça prend un effort. Discipline égale effort. Ça veut dire qu'on ne devient pas des disciples par accident. On ne devient pas des disciples seulement par un sentiment ou par accident ou par hasard, mais c'est par intention. Ça prend la discipline, un effort. Il faut avoir l'intention. Je vais devenir un disciple de Jésus-Christ par la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. C'est mon désir. Être croyant, c'est facile. Être disciple demande un effort. Thomas Merton a dit, si vous trouvez Dieu avec une très grande facilité, c'est peut-être pas Dieu que vous avez trouvé. Parce que pour découvrir Dieu, ça prend un effort, une intention. Actes chapitre 2. Ça nous décrit un peu la première église. Et Actes chapitre 2, versets 41 et 42, ça dit, ceux qui acceptèrent sa parole, la parole de Pierre qui était prêchée, furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples, pas croyants, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et comment qu'on sait que c'était des disciples? Parce qu'il décrit leur action. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la parole. C'est le signe d'un disciple. Ils persévèrent dans la parole de Dieu. Ils appliquent la discipline et l'effort à la connaissance de la parole. En anglais, le mot persévérer, c'est continued steadfastly. Ça, c'est l'image d'être collé, cimenté même, steadfast. On est pris, on est collé à la parole de Dieu. On bouge pas. En grec, c'est littéralement attaché. C'est firme. On est dévoué. C'est constant, engagé, discipliné. C'est régulier. Ça signifie un effort. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par accident. Ce n'est pas sans intention. Ce n'est pas quand ça me convient, je vais m'attacher ou lire ou étudier la parole de Dieu. À l'occasion, je vais le faire. Mais c'est un désir. C'est une dévotion. Il persévère. Il était attaché à la parole de Dieu. Et notre prière pour vous, c'est que vous soyez des hommes et des âmes dévoués, attachés, cimentés, liés à la parole de Dieu. Jour après jour après jour, la parole de Dieu. Que vous ne bougez pas de la parole de Dieu. Que vous désirez la parole de Dieu. Vous savez que votre désir détermine votre destinée. Si vous désirez quelque chose, vous allez vers cela. Combien désirent être disciples par la parole de Dieu? Votre désir détermine votre destinée. Il persévérait dans l'enseignement. C'était une action dévouée à l'étude de la parole, dévouée aux disciplines spirituelles, dévouée à découvrir Dieu, d'aller plus loin, devenir des disciples. Et cette transformation en disciple devient une réalité quand on arrête de juger la Bible et laisse la Bible nous juger. Beaucoup de monde juge la Bible, critique la Bible, examine la Bible. Mais quand on devient disciple, on laisse la Bible nous juger, nous critiquer, nous examiner. Et sous la conviction du Saint-Esprit, on se conforme aux instructions de la parole de Dieu. J'espère que vous êtes prêts à être jugés par la parole de Dieu. On laisse le Saint-Esprit prendre la parole de Dieu et nous juger et nous convaincre et on devient le Saint-Esprit. Pourquoi un effort pour connaître et découvrir et suivre Dieu? Parce que Dieu est humble. Dieu nous permet de l'ignorer. Dieu nous permet de l'exclure. Dieu nous permet de l'oublier. Dieu nous permet de l'astrister même. Dieu ne s'impose pas. C'est pour ça que ça prend un effort de notre part. Parce que Dieu a assez d'humilité pour nous donner le choix de s'approcher de lui ou de ne pas s'approcher de lui. Et quelqu'un a déjà dit, Dieu n'est pas mort, Dieu n'est pas silencieux, Dieu attend. Il attend, tout simplement. Dieu désire parler, Dieu désire agir, mais il attend. Il attend qu'on s'approche de lui par la parole et le Saint-Esprit. Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est à nous l'initiative. C'est à nous le premier pas de s'approcher de Dieu et Dieu attend pour faire quelque chose dans notre vie. Il ne se cache pas, c'est nous qui se cachons. Il faut qu'on s'approche de lui. La meilleure façon de s'approcher de Dieu, c'est par la parole et l'esprit. C'est la meilleure façon de découvrir, de le connaître, de devenir un disciple par la parole avec l'aide du Saint-Esprit. C'est ce que j'appelle un mélange explosif. Ça, c'est le mot théologique pour cela. Ça, c'est le terme technique. Un mélange explosif pour notre vie. La Bible et le Saint-Esprit. La Bible a un autre nom pour le mélange de la parole et l'esprit. Savez-vous c'est quoi? La Bible appelle ça la Nouvelle Alliance. La Bible et l'esprit, ce mélange explosif, est appelée la Nouvelle Alliance, le mystère et le merveille de la Nouvelle Alliance dans la parole de Dieu. Quand la Nouvelle Alliance, c'est quand que le Saint-Esprit prend la parole de Dieu et le brûle dans nos cœurs, le vivifie dans notre cœur, le brûle à l'intérieur de nous. Quand que le Saint-Esprit applique à nos cœurs d'une façon surnaturelle la parole de Dieu. Et ça, c'est la puissance explosive. C'est la Nouvelle Alliance. Que la Bible n'est pas seulement quelque chose qu'on va lire ou étudier, mais la Bible est quelque chose qu'on va vivre à l'intérieur de nous. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance, comme décrit en Hébreux chapitre 8. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié de eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, avec mon peuple. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois, ma parole, dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et il sera mon peuple. Une puissance explosive quand Dieu prend sa parole. Et il écrit sur les tables de notre cœur par la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance de la Nouvelle Alliance. Et c'est quoi la différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance? C'est simple. C'est d'aller de l'extérieur à l'intérieur. Dans l'Ancienne Alliance, la parole de Dieu était à l'extérieur. C'était les lois et les commandements qu'il fallait pratiquer de l'extérieur. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons le privilège d'avoir la puissance surnaturelle de l'Esprit puis qui prend les promesses et les commandements et les instructions de la parole et les vivifie à l'intérieur de nous. Combien c'est que ça, c'est supérieur à la Bible à l'extérieur, c'est de l'avoir à l'intérieur. C'est une nouvelle alliance. Cette puissance explosive. La parole qui n'est pas seulement lue ou mémorisée ou étudiée, mais vécue. La parole en l'intérieur, la parole mise en pratique. Quand on ne pratique pas la parole de Dieu, quand ce n'est pas à l'intérieur, quand c'est rien pour étudier, expliquer, prêcher, c'est une farce. C'est une futilité. La parole de Dieu vaut rien si ce n'est pas vécu à l'intérieur. Vous êtes d'accord avec moi? Sinon, ça devient une farce. Je me souviens quand ma fille avait beaucoup plus jeune, elle allait à l'école chrétienne et moi je l'aidais à mémoriser ses écritures parce que tous les jours il fallait mémoriser des passages de l'écriture, puis il fallait qu'elle mémorise 1 Corinthiens chapitre 13, le passage sur l'amour. Et je me souviens qu'elle captait pas, elle était distraite, puis à un moment donné, moi j'étais un peu colérique et je me souviens quand j'ai commencé à crier « L'amour est patient, l'amour est patient, l'amour est patient! » Réveille-toi! La farce, la stupidité de crier l'amour est patient. Qu'est-ce que ça donne de mémoriser les Écritures si on ne va pas vivre les Écritures? Qu'est-ce que ça donne de mémoriser le passage sur l'amour si on ne vit pas le passage sur l'amour? Dieu veut prendre 1 Corinthiens chapitre 13 sur l'amour. Et que ce ne soit pas seulement quelque chose qu'on va citer ou prêcher, mais il veut prendre cet amour et le mettre dans nos cœurs. Romains 5, 5, l'amour de Dieu, comme décrit en 1 Corinthiens 13, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, afin qu'on peut vivre la patience, pas seulement parler sur la patience. Je ne peux pas entendre amen à cela. L'amour est patient, la patience est une possibilité par le Saint-Esprit. Mais la Bible qui n'est pas pratiquée, la Bible qui n'est pas à l'intérieur, devient une futilité, ça devient une farce. La nouvelle alliance, c'est que Dieu prend la Bible puis il l'insère dans notre cœur. Ça devient une réalité, le vécu. La nouvelle alliance, comme décrit en détail et merveilleusement par le prophète Ézéchiel, qui prophétisait d'un jour de la nouvelle alliance. Puis remarque les paroles explosives qui sont en Ézéchiel, chapitre 36, 25 à 29. Il dit, un Dieu, un jour, Dieu qui promet, nouvelle alliance, un jour à venir. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé, et je le multiplierai, et je ne vous enverrai plus la famine. Or, rien moins qu'un mélange explosif. Je veux faire quelque chose qui va exploser dans votre vie. C'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose qui va vous transformer. Et je vais le faire par mon esprit. Un mélange du Saint-Esprit avec la parole de Dieu. Puis qui est la source de tout cela? D'où ça vient cette puissance qui transforme, qui nous aide à devenir? Ça vient de Dieu. Avez-vous remarqué dans ce passage-là, Ézéchiel chapitre 36, combien de fois que Dieu dit « Je »? Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais vous transformer. Je vais mettre mon esprit en vous. Je vais faire en sorte que vous marchiez dans la pureté. 10 fois, il dit, moi, je vais le faire. Je vais le faire. Je ferai. C'est Dieu qui le fait. C'est lui qui va l'initier. Ça vient de lui. De quelle manière et de quel moyen? Par le Saint-Esprit. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. C'est pour ça qu'il est possible de marcher pur dans une société perverse et pornographique, car Dieu a dit, je vais mettre mon esprit en vous, et par la puissance du Saint-Esprit et la parole de Dieu, je vais faire en sorte que vous allez marcher pur et saint. Il est possible de marcher saint et sanctifié et pur, même dans cette génération. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Plus fort est celui qui est en nous, qui pousse contre la pression à l'extérieur de nous. C'est la puissance de la nouvelle alliance. Je vais le faire, je vais le faire par mon esprit. Je vais prendre la parole et avec mon esprit, je vais le mettre, je vais l'écrire sur les tables de votre cœur. C'est la nouvelle alliance. C'est ce qu'on appelle l'expérience pentecôtiste, comme décrit en Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit a descendu sur l'Église avec le vent et le feu et des signes et des prodiges. C'est ce qu'on appelle l'expérience pentecôtiste, c'est de recevoir cette nouvelle alliance. Qu'est-ce que ça veut dire sur la Pentecôte? On parle de la Pentecôte, on est une église pentecôtiste, on parle du mouvement pentecôtiste, on parle de l'expérience pentecôtiste. Qu'est-ce que ça veut dire Pentecôte? Vous savez que, premièrement, Pentecôte est un terme chronologique. Pentecôte veut dire tout simplement 50. Ça signifie le chiffre 50. Deuxièmement, Pentecôte était aussi le nom d'une fête en Israël, qui est décrit dans l'Ancien Testament. C'était un de seulement trois fêtes qui rassemblait tous les Juifs de partout à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. C'était une des grandes fêtes de l'Ancien Testament qui est décrit en Exode, Lévitique et Deutéronome. Et la Pentecôte, quand que Dieu appelait tout son peuple, il dit « Tout le monde vient ensemble ». L'Est et l'Ouest et Sud et Nord, tout le monde ensemble à Jérusalem pour célébrer la Pentecôte. C'était une célébration de deux choses, comme c'est décrit dans l'Ancien Testament. On n'a pas le temps de regarder, mais c'était une célébration de deux choses. C'était la célébration de la moisson et c'était une célébration de la loi, de la parole. Une célébration de la récolte et une célébration du don de la loi, la parole pour le peuple de Dieu. Alors, vous voulez savoir qu'est-ce que ça signifie, Pentecôte, l'essence de la Pentecôte, que veut dire être pentecôtiste? Ça veut dire qu'on célèbre et on croit à la moisson, à la récolte, que le Saint-Esprit est là pour nous rendre des évangélistes efficaces qui vont gagner des âmes. On croit à des moments comme ce matin de voir des dizaines et des dizaines de personnes de tout âge et classe et statut et hommes et femmes ensemble ici qui sont récoltés pour le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. C'est une célébration de la moisson. Une église pentecôtiste croit que le Saint-Esprit est là pour convaincre les gens et on veut voir des âmes sauvées jour après jour, semaine après semaine. C'est la moisson. On est des pentecôtistes, on célèbre la moisson. Une célébration de la récolte. L'expérience pentecôtiste et l'évangélisation, ça va ensemble. Et deuxièmement, c'est de célébrer la loi et la parole de Dieu. Dieu qui nous donne sa parole et le met à l'intérieur de nous. C'est pour ça que Dieu a choisi la fête de la Pentecôte. C'est significatif. Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, pendant que tous les Juifs, tout le peuple de Dieu était rassemblé à Jérusalem, il a choisi ce jour-là, la Pentecôte, pour répandre son esprit sur l'Église. Ce n'était pas par hasard. C'est parce que le Saint-Esprit est donné pour la moisson, pour nous rendre des gagneurs d'âmes, efficaces et courageux. Les âmes sauvées, c'est le signe de la Pentecôte, et le Saint-Esprit est donné à la Pentecôte pour nous aider à mieux comprendre et vivre la parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit pour la moisson et la parole. Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit pour l'évangélisation et la sanctification. En anglais, we say harvest and holiness. Moisson, évangélisation et la parole de Dieu, la sanctification. La nouvelle alliance appliquée par le Saint-Esprit nous rend un peuple saint en qui demeure la parole de Dieu, qui sont des témoins efficaces, des gagneurs d'âmes, des missionnaires. Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte. On voit les mêmes deux choses, la moisson et la parole. Saint-Esprit descend sur l'Église. Pierre prêche un sermon. 3000 personnes sont sauvées. La moisson. Le Saint-Esprit est la moisson. Un sermon, 3000 personnes sauvées. Pas 3000 sermons pour avoir une personne sauvée. C'est la puissance du Saint-Esprit. Mais plus que ça, c'est la parole de Dieu qui est brûlée dans le cœur des disciples. C'était l'accomplissement de la nouvelle alliance. Ça, c'était la Pentecôte. Exode chapitre 9 nous décrit un peu l'ancienne alliance. On n'a pas le temps de regarder, mais pour comprendre Actes chapitre 2, il faut comprendre Exode chapitre 19. Exode chapitre 19 nous décrit 50 jours, la Pentecôte, 50 jours après la Pâque. 50 jours après que les gens ont été libérés d'Égypte par le sang des agneaux, qui signifie le sang de Jésus. 50 jours, ils arrivent au pied du mont Sinaï, puis vivent la Pentecôte de l'Ancien Testament. Et Exode 19, 18 et 19 et 20 nous décrit le peuple d'Israël. C'est la Pentecôte. C'est 50 jours après la Pâque, après le versement du sang, ils arrivent au pied du mont Sinaï et dans un contexte de feu et de tremblement et d'éclairs et de tonnerre et de bruit et de fumée, la loi est écrite sur les tables de pierre et sont données au peuple de Dieu. Voici les lois et les instructions de Dieu brûlées sur les tables de pierre. Actes chapitre 2, nous avons encore 50 jours après la Pâque, 50 jours après la crucifixion, 50 jours après que Jésus a versé son sang pour nous libérer du péché, nous avons la Pentecôte du Nouveau Testament comme la Pentecôte de l'Ancien Testament. Et dans un contexte qui est très semblable au Mont Sinaï, dans un contexte, on lit en Actes chapitre 2, de feu et de tremblement et de bruit et de vent impétueux, le Saint-Esprit descend pour écrire la loi et la parole de Dieu sur les tables de nos cœurs. La parole à l'intérieur, la nouvelle alliance, c'est la Pentecôte du Nouveau Testament. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est Dieu qui prend sa parole et le met à l'intérieur de nous afin de nous donner une force à vivre pur et efficace dans notre vie chrétienne. Est-ce que je peux entendre en amène à cela? Ça, c'est la Pentecôte. C'est la parole et la puissance pour gagner les âmes. Acte chapitre 2. Vivre sous la grâce. Comprenez quelque chose. Vivre sous la grâce n'est pas une justification pour le péché. Mais vivre sous la grâce, la puissance du Nouveau Testament, c'est une possibilité d'une pureté. C'est accès à la nouvelle alliance. C'est pour ça que je dis souvent, l'Évangile n'est pas, ça ne veut pas dire bon renseignement, ça ne veut pas dire bon conseil, ça ne veut pas dire bonne thérapie, mais ça veut dire bonne nouvelle. Votre cœur peut être changé par la puissance du Saint-Esprit. Votre cœur peut être changé. Il y a de l'espérance, c'est une bonne nouvelle. Vous avez la parole et la puissance du Saint-Esprit, vous avez le sang de Jésus. Vous pouvez être transformé, libéré de votre ancienne vie, libéré de vos chaînes. Vous n'êtes pas une victime de votre problème, votre arrière-plan. Vous n'êtes pas une victime de votre passé. Vous n'êtes pas une victime de l'influence du péché. Vous pouvez être libéré par la parole et la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez ici ce soir? Est-ce qu'on le croit vraiment? Par la parole et la puissance du Saint-Esprit, libéré. C'est une bonne nouvelle qu'on a à vous annoncer. Vous pouvez être libéré. C'est pour ça que Jésus était plus exigeant que la loi même. Les gens, il y en a des gens qui disent, mais aujourd'hui, on vit sous la grâce. Alors, on n'a pas à vivre sous la loi, les exigences, la discipline, la sanctification, parce qu'on est sous la grâce. Comme si la grâce est moins exigeante que la loi. Mais si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que la grâce est beaucoup plus exigeante que la loi. Remarque la façon que Jésus parlait. Jésus disait, vous avez appris qu'un homme ne devrait pas commettre l'adultère. Mais qu'est-ce que Jésus a dit par la suite? Mais moi, je vous libère pour le faire parce que c'est difficile à se contrôler. Parce qu'on est sous la grâce. C'est ça que Jésus a enseigné? Il dit, vous avez appris sous la loi que ce n'est pas permis qu'un homme commette l'adultère. Mais moi, je vous dis que même si un homme convoite une femme dans son cœur pour l'avoir, il a commis l'adultère. Wow! Ça, c'est différent, ça. Pourquoi qu'il y en a qui dit la grâce est moins exigeante que... Jésus a dit, même la convoitise, même d'être pris par la convoitise, pornographique, sensuelle, d'adultère, Jésus ajoutait à la loi. Jésus a dit, vous avez appris qu'il n'est pas permis que vous tuez votre frère. Mais moi, je vous dis, vous n'avez même pas le droit de l'haïr. Il y en a qui vont dire, peut-être je ne tuerai pas mon frère, mais donne-moi le privilège de vouloir le tuer. Laisse-moi au moins penser là-dessus. Mais Jésus, alors ceux qui disent, on ne veut pas la loi, on ne veut pas la discipline, parce que ça c'est sous la loi. Nous on est sous la grâce. Vous voulez être sous la grâce? La grâce dit que votre cœur soit libéré de la convoitise, que votre cœur soit libéré de l'agressivité, que votre cœur soit libéré de la haine. C'est facile peut-être pas tuer quelqu'un, mais comment qu'on peut être libéré de la haine ou le désir de vouloir avoir la vengeance? Pasteur Mark, est-ce que vous êtes en train de dire que dans une société pornographique où qu'on est bombardé par les médias sensuels et sexuels, il est possible de vivre pur? C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit, puis a pu être exigeant parce qu'on n'est pas tout seul. Nous avons la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, et si Jésus l'a demandé, ça veut dire qu'il est possible. Il faut juste aller chercher l'aide et la puissance pour le faire. Est-ce que je peux entendre amène à cela? On peut être libéré de la haine et la violence et la convoitise, libéré par la puissance du Saint-Esprit. On n'est pas victime à notre société. C'est pas ça que Jésus enseignait. Il dit, vous avez entendu dire que si un homme n'aime pas sa femme, il peut juste le répudier, il peut juste le divorcer. Mais moi, je dis, non seulement sauf pour l'adultère. c'était encore plus exigeant, parce que tu as une possibilité de réconciliation. Si vous avez appris qu'il faut donner votre dîme, 10%, mais moi, je vous dis, il faut donner votre vie. Tout. La grâce est beaucoup plus exigeante que la loi. Lisez l'Évangile, vous allez voir comment Jésus parlait. Parce que Jésus savait que c'est possible de partir d'un cœur petit à un cœur qui est grand par la puissance du Saint-Esprit. Il est possible de partir d'un cœur qui est petit à un cœur qui est grand et généreux, un cœur romantique, un cœur compatissant. Dans une société remplie de violence, c'est possible d'avoir la compassion, la miséricorde et l'amour. Dans une société pornographique, il est possible de vivre pur. Dans une société de matérialisme, il est possible d'être généreux et d'avoir un contentement, malgré qu'il y a des millions, mille et une raisons, puis on est bombardé tous les jours par les médias qui essayent de semer l'insatisfaction, de ne pas être content, d'acheter, acheter, acheter, accumuler, 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 pour être content, pour être arrivé, pour être court, pour être accepté, pour être succès, pour être prospère. Il est possible de vivre heureux dans une société de matérialisme parce que Dieu est capable de changer notre cœur, d'être libéré de la convoitise, convoitise de l'argent, convoitise des femmes, convoitise de la sexualité, convoitise de la violence. On peut être libéré par la puissance du Saint-Esprit qui change notre cœur. L'écrivain G.K. Chesterton a dit, il y a seulement deux façons pour avoir assez. Accumuler plus ou désirer moins. Dieu peut changer nos désirs afin qu'on soit satisfait. Dieu peut changer notre cœur. Le cœur pour notre mari, le cœur pour notre femme, le cœur pour nos enfants. Le cœur envers nos ennemis. Non par notre propre force. Pourquoi je peux prêcher quelque chose comme ça quand on est bombardé de problèmes, de tentations, de pression? Pour le péché, notre cœur, nos pensées. Comment qu'on peut prêcher une telle nouvelle qu'il est possible d'être libéré et pur? Parce que ce n'est pas par notre propre force. Ce n'est pas par notre concentration intense. Par la force humaine, la discipline de soi. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Un nouveau cœur. Par la parole et l'esprit. Laisse Dieu faire quelque chose dans votre cœur. On a témoignage, témoignage, des gens qui ont été libérés de la haine, libérés de l'encune, libérés de manque de pardon, libérés de la violence, libérés de l'alcoolisme, libérés d'être pris, obsédés par la pornographie et l'adultère et la prostitution. On a des témoignages. Pourquoi? Juste par la force de la concentration? Non, c'est par la force de la puissance du Saint-Esprit mêlée avec la parole de Dieu qui brûlait à l'intérieur de nous, ça devient explosé pour exploser notre cœur de pierre et nous donner un nouveau cœur, un cœur pour Dieu et la pureté. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la Pentecôte. C'est pour ça qu'on le prêche. C'est ce qu'on croit. Vous n'êtes pas condamné à vie dans l'état que vous êtes. Épictète nous a dit quelle est la punition pour la personne qui n'accepte pas les choses de l'esprit. La punition pour cette personne-là, c'est de demeurer comme qu'elle est. Mais si on accepte ces choses, on peut devenir quelqu'un d'autre. On peut devenir quelque chose d'autre. On peut aller plus loin et transformer par la parole et le Saint-Esprit. Puissance explosive. La parole pour découvrir, discerner et devenir. Savez-vous que dans l'histoire des chrétiens, ils ont été toujours connus, les chrétiens, comme les gens du livre. Les gens du livre. Souvent dans l'histoire, les chrétiens décrits ce groupe-là, les gens du livre, le peuple du livre. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont toujours été associés avec le livre. C'était des gens qui étaient attachés au livre, qui avaient le livre, qui se promenaient avec le livre, qui croyaient le livre, qui vivaient selon le livre, qui prêchaient le livre. Et moi, je dis, Seigneur, je prie encore aujourd'hui que les chrétiens puissent être connus comme les gens du livre, qui croient le livre et pratiquent le livre, pas seulement en parole, mais en action. Ce livre qui parle de la pureté, ce livre qui parle de l'autorité spirituelle, ce livre qui parle de l'amour de Christ, ce livre qui parle parle d'une grâce extravagante pour changer une vie. Ce livre qui parle d'inclusion et acceptation et le pardon, qu'on peut vivre ce livre pour prier pour nos ennemis et faire du bien à ceux qui nous maltraitent, qu'on soit connus comme les gens du livre, les gens qui pratiquent et croient et vivent le livre. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Les gens du livre, où est-ce que le livre est imbibé en nous, intégré en nous par la puissance du Saint-Esprit? Combien ont leur Bible ici ce soir? Est-ce que je peux voir votre Bible? Vous avez votre Bible. Est-ce qu'on peut voir votre Bible pour ceux qui ont leur Bible? Un des dangers de toujours avoir des versets sur PowerPoint, c'est qu'on commence à ne plus apporter notre Bible à l'Église. PowerPoint ou pas, apportez votre Bible à l'Église. Es-tu correct ça? Hein? Qu'on soit des gens du livre. On s'attache au livre. On s'engage à être des gens du livre. Lire, étudier, prendre des notes, comprendre, s'attacher, obéir le livre, la prière et la parole. Et je crois que les paroles du pasteur Claude sont vraies, que l'an 2005, ça va être une année sans précédent. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Par la prière et la parole, la prière et la parole et la puissance du Saint-Esprit, on va vivre des choses sans précédent. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Hein, prenez votre Bible si vous avez votre Bible. Juste un moment d'engagement vers la parole de Dieu. Je vais demander les musiciens. Sébastien peut juste revenir au piano. On va juste avoir un moment de louange, d'adoration, un moment qu'on veut baigner dans la présence de Dieu. Mais juste un instant, je vais juste demander tous les yeux fermés pour un instant. Juste un instant solennel dans la présence de Dieu. On prend notre Bible, on élève notre Bible, on s'engage envers la parole de Dieu. Pour être un homme et une femme de la parole, un jeune de la parole, un engagement vers l'Église et vers Dieu, de vivre la parole, d'obéir la parole, de croire la parole, de prêcher la parole, de témoigner la parole. Nous voulons être un peuple du livre. Si vous l'avez, juste prenez un engagement. Juste un engagement comme ça pour dire, Seigneur, merci pour ta parole. Est-ce qu'on peut avoir une adoration pour la parole de Dieu? Hein, juste un moment pour dire, merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour la Bible. Merci pour la liberté que nous avons d'avoir la Bible, lire la Bible, reproduire la Bible, distribuer la Bible. Merci pour ta parole, Seigneur. Je m'engage à être quelqu'un du livre, du livre. On s'engage à cela. Notre premier engagement, c'est envers la Bible. Seigneur, je m'engage à découvrir des choses de nouveau dans ta parole. Je m'engage à développer le discernement par ta parole. Je m'engage, Seigneur, à devenir un disciple par l'effort que je mets dans ta parole, par l'effort de persévérer, m'attacher à la parole. Seigneur, plus que rien d'autre, je m'engage à être quelqu'un qui laisse le Saint-Esprit prendre la parole et le brûler dans mon cœur. Vivifie la parole à tous les jours. Je vais arrêter de juger la parole et laisser la parole me juger, me convaincre, m'examiner, me critiquer même. Je vais le faire par la puissance de ton Saint-Esprit. On veut prendre un temps. On veut prendre le temps, même pas 7h30. On appelle ça une soirée de l'Esprit, puis on veut prendre le temps. On veut prendre le temps. On veut donner au Saint-Esprit un contexte d'adoration et prière, un contexte pour agir. On veut laisser le Saint-Esprit appliquer ce que nous avons appris. On veut laisser le Saint-Esprit nous aider à découvrir, discerner, devenir. C'est le dimanche soir, c'est l'occasion pour ça. C'est le contexte, c'est le moment pour le faire. C'est dimanche soir, c'est soirée de l'Esprit. Quel autre moment dans la semaine qu'on va avoir comme là, pour prendre quelques instants dans la présence de Dieu? C'est le moment, là. Si Dieu va travailler, si Dieu va faire quelque chose, on veut lui donner l'endroit, puis on veut lui donner le temps. L'endroit et le temps. Ça, c'est l'endroit ici. On a la musique, la louange, l'adoration pour adorer le Seigneur. On a une équipe de prière, on a les pasteurs qui sont là. On est à l'Église. L'Église est là pour ça. Le dimanche soir, le jour du Seigneur. Alors, c'est le contexte. Puis, on veut lui donner le temps. On a encore du temps pour donner au Seigneur. Pour laisser le Saint-Esprit agir. Moi, je veux faire deux appels ici ce soir, ici à l'hôtel. Deux appels. Premier appel, c'est pour ceux qui ont un besoin. Si vous avez un besoin ce soir, un besoin physique, un besoin spirituel, un besoin familial, un besoin où vous vous ressentez tourmenté, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de la prière. On aimerait prier pour vous. L'Église est là pour ça, puis nous croyons à la puissance de la prière. On est là pour vous, on prie pour vous, on prie avec vous. On croit à la puissance de cela. Ce premier appel, c'est pour ceux qui ont besoin ce soir. Et vous voulez que quelqu'un de l'équipe de prière prie pour vous. Je vous demande juste de quitter votre place et venir ici en avant. Dans quelques instants, on va adorer. Mais c'est notre prière ici ce soir. Si vous avez un besoin, venez, approchez. C'est peut-être 10 personnes, 20, 100 personnes, je ne sais pas. Mais c'est un besoin précis, un besoin précis. Vous avez un besoin précis. Un besoin que vous pouvez même vocaliser, verbaliser. C'est précis. Vous savez pourquoi vous venez en avant. Bien, pas pour de quoi général. C'est précis. C'est ce que j'ai besoin ce soir. C'est ce que je veux ce soir. Comme Jésus, quand il a demandé, « Que veux-tu que je fasse? » Hein? À différentes reprises dans les évangiles, Jésus demandait cette question-là. « Que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu veux être guéri? Tu veux être libéré? Tu veux être rempli de la puissance de l'Esprit? Qu'est-ce que tu veux? » Il faut avoir un besoin précis si vous venez en avant. Juste approcher le plus proche que possible. Plus proche que possible ici. Vous avez un besoin précis. Là, je vais demander l'équipe de prière de juste commencer à prier. L'équipe de prière qui sont là, les pasteurs, l'équipe de prière, juste commencer à prier pour des gens. Vous pouvez demander c'est quoi leurs besoins. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez dire c'est quoi votre besoin. Si vous n'êtes pas à l'aise, Jésus sait c'est quoi. Mais quelqu'un va vous demander c'est quoi votre besoin. Et là, il va commencer à prier pour vous. Hein? Est-ce qu'on peut juste, l'équipe de prière, juste commencer tout de suite à prier, imposer les mains? C'est le contexte pour cela. Au reste de la congrégation, on veut prendre un instant pour baigner un peu dans l'esprit, pour louer et adorer le Seigneur. Prendre des moments à l'autel. Si votre désir, moi je vais prier que le Saint-Esprit nous aide à appliquer les choses qu'on a prises. Les choses qu'on a prises sur la prière depuis le début de l'année. Les choses qu'on a prises sur la parole. Ma prière est simple. Seigneur, aide-nous à découvrir. Aide-nous à devenir. Aide-nous à discerner. Aide-nous à marcher pur. Aide-nous à marcher selon ta parole. Vivifie ta parole dans nos vies, Seigneur. Que ça brûle dans mon cœur. On veut passer un temps à l'autel de louange, d'adoration et de prière. Sébastien va nous conduire dans la louange d'adoration. Pour le reste de la congrégation, je vous invite à trouver une place ici à l'autel. Juste vous approcher et trouver une place ici à l'autel. C'est le contexte pour cela. Et juste commencer à louer, adorer le Seigneur. Laisse le Saint-Esprit faire quelque chose dans votre vie. Hein, c'est une soirée de l'Esprit. Le Saint-Esprit est là. Jésus a quelque chose pour les nouveaux. Jésus a quelque chose pour les anciens. Jésus a quelque chose pour ceux qui ont besoin précis. Jésus a quelque chose pour ceux qui n'ont pas de besoin précis, mais il veut juste s'attacher à la parole. Il veut que le Saint-Esprit, il veut que la nouvelle alliance soit une réalité. Il veut que le Saint-Esprit rentre en nous pour faire en sorte qu'on marche pur, libéré. Libéré dans la présence du Seigneur. Juste un moment solennel de louange, d'adoration. Louez, priez, levez vos voix vers le Seigneur. Qu'on puisse juste baigner dans la présence du Seigneur. Passez le temps. Donne à Dieu le contexte. Donne à Dieu l'environnement. Donne à Dieu l'endroit propice pour faire quelque chose. C'est votre occasion. C'est le moment. Ce n'est pas nécessaire de demeurer comme vous êtes. La bonne nouvelle, c'est que Dieu peut transformer votre vie. Transformer votre circonstance. Ici à l'autel, qu'on soit à notre place, debout, assis, à genoux, qu'on puisse avoir un moment juste pour juste adorer le Seigneur et s'ouvrir à la puissance du Saint-Esprit. Chantez, Sébastien, conduis-nous. Louange, l'adoration, un moment dans la présence du Seigneur. Laisse le Saint-Esprit agir. Ça nous fait du bien de passer des moments à l'autel. Ça nous fait du bien dans notre semaine d'être dans un contexte de louange, d'adoration, un contexte de puissance. C'est une soirée de l'Esprit. Laisse le Saint-Esprit agir.
Et couvre-moi de ta puissance, revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté, manifeste ta présence, et couvre-moi de ta puissance, revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. manifeste ta
présence
et convainc-moi.
Le Saint-Esprit, brisez les liens démoniaques, brisez les liens du passé.